16h04, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Neige, pluie, pluie, neige, on alterne entre les deux. Depuis le début de l'après-midi, et évidemment, les problèmes de circulation sont nombreux. Audrey, on t'écoute.
C'est vraiment intense. Peut-être commencer par vous dire qu'Henri IV Sud, à la hauteur de l'avenue Chauveau, la voie droite est toujours bloquée pour cet accident. Les services d'urgence sont sur place au moment où on se parle. D'autres incidents se sont réglés entre-temps, mais pour vous faire le topo, là, Capitale, direction Est, entre Henri IV en ce moment, et Beau-Royal, c'est super complexe de circuler. Si vous êtes direction Ouest, toujours sur la Capitale, ça se passe entre Seigneurial, dans le coin de Beauport, et Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord, c'est entre le boulevard Laurier et la Capitale que ça se passe. Direction Sud, c'est entre Charest et le boulevard Laurier. Si vous êtes sur Henri IV, direction Sud, c'est à partir de Wilfrid Hamel que ça ralentit jusqu'à l'entrée des ponts. Direction Nord, c'est à peu près de Quatre-Bourgeois, je vous dirais, à la Capitale, où il y a un bon ralentissement en ce moment. Dans le coin de la base militaire à Shannon, route de la Bravo, dans les deux directions, toujours aussi congestionné. Si vous êtes sur Duplessis, direction Sud, à partir de Charest, il y a un ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts. Charest Est, ça se passe entre Henri IV et Robert Bourassa. Et la 20, direction Ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata. Quoi que ce soit, 88-971-102 texto.
On peut reprocher bien des choses à Donald Trump, mais il est bon pour faire du bruit. On va y donner
ça
quand même.
Ça clair quand tu veux faire entendre de quoi. Là.
On dirait que cette semaine, il s'est dit « Hey, j'aimerais ça être au cœur de toutes les conversations de l'Amérique en l'espace de quelques jours. » Et il n'a pas manqué son coup.
Non.
Quelle est la menace qu'il a clamée haut et fort sur son réseau social hier et qui a amené une myriade de réactions à grandeur de l'Amérique du Nord?
Il faut savoir que Donald Trump va être assermenté le 20 janvier prochain, puis il a dit que parmi les premiers décrets qu'il avait l'intention de faire passer, il avait l'intention d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur tous les produits du Canada et du Mexique entrant aux États-Unis, des tarifs qui resteraient en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl et tous les immigrants illégaux, arrête cette invasion de notre pays. Énormément de réactions sur tous les paliers, autant des réactions politiques que des réactions économiques depuis que c'est sorti.
C'est toujours un plaisir de recevoir en studio Antonine Iaccarini, analyste politique. Bonjour Antonine.
Allô.
Je me rappelle le premier film d'Austin Powers où le méchant demande une rançon là, qui est inimaginable. C'est un peu ça que Donald Trump vient de faire avec son chantage. Genre, on veut forcer la main aux autres, mais on ne mettra pas ça à exécution.
Ben, je pense pas qu'on va mettre ça à exécution, mais ça donne le ton en tabarouette. Là. Puis, tu sais, plusieurs choses là-dedans. La première chose, c'est que c'est le fun de constater qu'on est sur un pied d'égalité avec le Mexique. c'est correct, là, la LENA, la CEUM, mais tu sais, on pensait qu'on était plus amis que ça, Donald.
Oui, effectivement. Genre. On pensait qu'on était plus proches.
On pensait qu'on était spécial. Non. De mettre notre frontière à égalité avec la frontière du Mexique, ça aussi, c'est particulier. Là.
Mais moi, je vois ça comme étant une manière de dire au Canada, appuyez-nous pour nos demandes par rapport au Mexique, justement avec la renégociation de l'accord de libre-échange. Puis vous allez voir, on va être fin avec vous autres, plus comme stratégie que de dire on est à égalité avec le Mexique.
Ah, je sais pas s'il va être fin avec nous autres, mais c'est sûr que ça finira pas à 25 % de tarifs parce que bien que ça a créé une panique coast to coast aujourd'hui puis hier soir, avec raison, hein, parce que ce serait catastrophique, c'est 70 % de nos échanges commerciaux qui se font avec les États-Unis. On est extrêmement dépendant des États-Unis. Puis même si on parle toujours de diversifier nos échanges commerciaux, la géographie est tenace. Mm-hmm. C'est notre seul voisin et c'est la plus grande puissance mondiale. Donc, de mettre un tarif de 25 % sur tous les produits qui rentrent aux États-Unis, ça serait catastrophique pour notre économie, mais ça serait catastrophique aussi pour l'économie américaine, même s'ils sont moins dépendants de nous que nous, on est dépendants d'eux. Juste l'aluminium et l'acier, là, comme il avait mis des tarifs moins élevés pendant son dernier mandat, imaginez les impacts sur les coûts de construction aux États-Unis.
Le bois d'œuvre aussi qui rentre
là-dedans. Le bois d'œuvre. Donc, imaginez pour la reprise économique, si les chantiers sont au ralenti, si les coûts de construction bondissent de 25 % ou plus, il paierait encore le prix là, comme nous. Là.
Je connais pas grand-chose en économie, mais j'ai écouté Succession sur HBO. Pis,
j'ai failli mettre mon chandail de Succession avant de venir
pour
ici
vrai?
En passant. Je me suis changée parce que j'étais comme, je suis pas sûre qu'ils vont comprendre la référence. Mais là,
on aurait compris.
Vous êtes des fans.
Oui,
ah,
je t'aurais été bienvenue.
Ah, à Boulevard, ils n'ont pas la culture nécessaire pour écouter
c'est
HBO en anglais.
C'est pas ça que je voulais dire.
Mais dans une négociation agressive, rappeler ton rapport de force
oui.
par rapport à des des gens moins importants, c'est l'étape numéro un. Puis si je me fais l'avocat du diable, ben il y en a qui disent aujourd'hui, ben c'est ça que ça prend pour que les problèmes se règlent, la politique du tordage de bras. Tu penses quoi de ça?
C'est du tordage de bras, effectivement. Tu sais, je pense que sur la question de la frontière, puis je voyais la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon sur Twitter aujourd'hui, sur X, je m'habituerai jamais, qui disait que bien qu'il n'est pas d'accord avec tout ce que propose Trump et ses positions, que c'est vrai qu'on a un problème avec la frontière.
Le laxisme aux frontières qu'il dénonçait.
Et oui, et ce laxisme-là de Justin Trudeau et de ce gouvernement-là qui lui colle à la peau. Tu sais, je regardais Pierre Poilievre qui ils ont fait un petit montage vidéo de Justin Trudeau au show de Taylor Swift pendant que Montréal était à feu et à sang avec une manifestation. C'est super démago. Mais pourquoi ça
c'est
marche?
C'est du bonbon politique.
Ben, c'est ça. Puis pourquoi ça marche? C'est parce qu'il y a un fond de vérité. C'est vrai que ça a tout pris pour qu'on intéresse Justin Trudeau à la question de la frontière, au chemin Roxham, à la question des migrants qui rentrent au Canada de façon importante et croissante. Puis il faut rappeler que Justin Trudeau avait fait un tweet il y a quelques années, je pense en 2016 ou 2017, où est-ce qu'il disait « Bienvenue à tous les demandeurs d'asile et les réfugiés ». Je résume un peu, j'exagère un peu, je fais mon Pierre Poilievre, mais ça ressemblait un peu à ça. Donc, ce que Donald Trump fait en ce moment, c'est très dommageable aussi pour Justin Trudeau, qui, rappelons-le, est à 17 % à égalité avec le NPD dans le dernier sondage Main Street.
Est-ce que Trump peut se servir de ça pour carrément s'ingérer dans la prochaine campagne électorale fédérale?
Absolument. Mais de toute façon, on le sait, il n'y a aucune limite avec Trump. Là. S'ingérer dans les campagnes des autres, ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Là.
Mais d'après toi, tu es analyste politique. Là. Donald Trump, aimes-tu mieux avoir un premier ministre qui partage son idéologie ou avoir un beau petit gentil papy qui peut mettre d'un coin une fois de temps en
Denis
temps?
Denis Pimot ne s'entend pas là-dessus. Ouais. Moi, je pense qu'il préfère un Justin Trudeau qui est plus facile à écraser. Puis, tu sais, quand il écrase, il se met un peu en valeur qu'avoir un Poilievre qui pourrait, entre guillemets, lui répondre.
Bien, je ne m'entends pas avec moi-même non plus là-dessus parce que, honnêtement, d'avoir un peu un premier ministre de l'autre côté alors qu'on rentre en négociation, évidemment, on le sait qu'il va falloir renégocier l'accord de libre-échange, un premier ministre qui est à genoux, ça peut être intéressant. En même temps, dans le fond, là, pour comprendre Donald Trump, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'idéologie comme telle. C'est qu'est-ce qui va le servir, lui, directement. Donc, est-ce que d'avoir un Pierre Poilievre qui a des affinités idéologiques, ça pourrait être intéressant pour lui? Peut-être. Et certains enjeux, puis il y a des tabous aussi dans notre économie. Tu sais, je pense à la gestion de l'offre. Ouais. On parlait de souris dans le lait tantôt. Justement. tu sais, c'est sûr que les conservateurs, peut-être, auraient plus de facilité à plier sur certains éléments qui sont moins des vaches sacrées, pour faire le lien avec le lait.
C'est très bon. Très bon.
Oui, j'essaie.
Tu commences à pogner le bille. J'aime ça. Oh, oui.
Donc, je ne m'entends pas avec moi-même là-dessus, mais cela dit, Justin Trudeau, je trouve que c'est la plus grande victime du tweet de Donald Trump, encore une fois, hier, parce qu'il a l'air tellement faible face à tout ça. C'est difficile de l'imaginer. Tellement pris avec ses problèmes à l'interne, de l'imaginer là, comme le champion de la négociation contre Donald Trump, c'est pas super encourageant.
Là, j'ai hâte de voir parce que demain, ça a forcé Justin Trudeau à avoir une rencontre avec les premiers ministres d'un océan à l'autre. Puis Dieu sait que ces temps-ci, la relation avec les différents premiers ministres n'est pas super. Comment il peut se positionner par rapport à eux?
Bien, ça peut être surprenant parce que des fois, une bonne crise, ça a le don de rapprocher les acteurs à l'interne qui pouvaient se coltailler.
Ouais.
On appelle ça le phénomène de rally around the flag. On se rassemble autour du drapeau. Ça me fait mal un peu de dire ça en tant qu'indépendantiste, mais quand il y a des menaces économiques comme celle-là, c'est le temps de se mettre ensemble et d'essayer de trouver des solutions parce que vraiment, ce serait catastrophique pour l'économie d'avoir des tarifs, même si ce n'est pas de l'ordre de 25 %. On se doute bien qu'on va terminer avec des éléments qui vont affecter notre économie. Puis dans certaines régions, c'est encore plus grave que dans d'autres régions. Puis le Québec est aux premières loges.
Je veux qu'on parle un peu ensemble de Paul Saint-Pierre Plamondon, Antonine, parce que présentement, il y a la cote. Puis bien franchement, quand il vient parler de ses enjeux à Québec, entre autres à Boulevard, les réactions essentiellement sont positives. Il était à Tout le monde en parle en fin de semaine. J'ai lu encore des réactions positives qui sont à l'extérieur du camp péquiste habituel. Tu sais, il passe bien, son message passe bien. Mais le cycle au PQ est toujours un peu le même. Hein? Ça passe bien jusqu'à ce que le référendum soit un sujet de discussion, puis là, ça baisse dans les intentions de vote et dans les sondages. Puis on dirait que le PQ est pogné dans ce cycle-là éternel. Des fois, ils arrivent au pouvoir, mais ils ne sont pas souvent majoritaires. Puis là, ça redescend après, puis c'est jamais facile. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, d'après toi, peut casser ce cycle-là qui dure depuis quoi? Au moins une vingtaine d'années?
Ben, je pense que jusqu'à un certain point, il l'a déjà un peu cassé. Parce que juste la position sur l'indépendance, très assumée. Tu sais, moi, j'ai été au PQ à l'époque où on parlait d'indépendance seulement dans les conseils nationaux.
Ça te fâchait-tu?
Ben non, parce que les Québécois étaient pas là, puis on avait, tu sais, on venait quasiment de sortir d'un référendum, puis ça avait comme pas de bon sens de recommencer. C'était comme les plaies étaient ouvertes encore et tout ça. Fait que nous, on essayait de travailler sur des politiques nationalistes, d'éviter les empiétements d'Ottawa, de protéger la langue française, tout ça. Un peu comme la CAQ le fait maintenant. Hein, on s'entend, c'était une gouvernance qui était, selon somme toute, similaire. Et on parlait d'indépendance d'un conseil national, puis on se faisait pogner par les journalistes parce qu'ils nous demandaient ça allait être quand le prochain référendum, c'est quand la date du référendum, on va-tu garder la monnaie canadienne, on va-tu savoir l'armée canadienne. On se ramassait tout le temps pogné là-dedans. C'était un boulet de parler d'indépendance. Là, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait, c'est qu'il a pris le boulet, il l'a mis sur la table puis il a dit « Regardez là, c'est ça, on va faire un référendum dans le premier mandat. Le PQ, c'est un parti souverainiste. On va arrêter de niaiser avec ça. » Puis Crème, il est quand même premier dans les sondages.
Il est premier dans les sondages, mais la souveraineté n'est pas première dans les sondages. Elle ne monte pas. Les intentions de vote envers Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est sûr que ça paraît bien. On est à 2 ans des élections générales au Québec. Il y a le fameux principe de « on n'aime pas le gouvernement qui est en place ».
On cherche
le
second champion, boss. Là.
Exactement. Fait que oui, lui, comme individu, semble quand même shiner, mais la souveraineté, zéro pin bar, malgré le fait qu'il l'ait quand même mis de l'avant. Là.
Deux choses. La première, c'est vrai que les gens cherchent une alternative. Puis là, le Parti libéral du Québec est dans le bas fond et se cherche. Il va y avoir des choses qui vont se passer d'ici la prochaine campagne électorale.
Bien, Denis Coderre va vendre sa maison, entre autres. Je veux dire,
j'ai vu ça. Il a mis ça sur ses médias sociaux.
Tout, hein? Belle photo.
D'après moi, Remax va payer ses dettes. Oh, quand j'ai vu cette photo-là.
Ça n'a pas de bon sens. Là, tu m'as vraiment déconcentré. Donc, oui, le Parti libéral va avoir un chef éventuellement, ça va faire bouger les cartes. Je pense pas que QS va faire beaucoup bouger les cartes. En tout cas, eux, ils ont de la misère. Tu disais
faudrait que ça bouge à l'intérieur.
Plamondon
hein?
sortait de ses cercles. Le QS est incapable de sortir de ses cercles habituels. Mais il va se passer des affaires d'ici 2026. Puis c'est vrai que pour l'instant, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est comme l'alternative. C'est sympa. Ils ont gagné dans Jean Talon. Très bien, très bien. Par contre, sur la question de la souveraineté, oui, c'est vrai que les intentions de vote par rapport à un référendum sont les mêmes. Mais je trouve que l'ambiance a changé. Tu sais, dans un sondage, il y aurait un référendum demain matin. Est-ce que vous voteriez oui ou non? Puis sinon, il y a une autre option, je ne sais pas, ou je ne veux pas répondre. Généralement, les gens qui répondent oui ou non, on sait, ben pas généralement, en fait, on ne le sait pas. Est-ce qu'ils sont hostiles? Mettons, je réponds non, moi, je ne suis pas pour la souveraineté du Québec, mais est-ce que je vais me battre, là, tu sais, dans un référendum, puis bec et ongle, puis à minute où le Québec est un pays, je vais recommencer à travailler pour qu'on réintègre le Canada, ou ben donc, je m'en fous un peu, qu'ils fassent bien ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me passionne pas, mais je m'en
fous. Une indifférence.
Même affaire chez le oui. C'est-à-dire, tu sais, moi, je suis une personne qui croit que le Québec aurait dû être un pays. Je pense arrêter la normalité. Est-ce que je me réveille la nuit en sueur, là, puis mon Dieu, je souffre d'être dans le Canada? Au secours! Non! Mais moi, je pense arrêter juste la chose normale. Puis il y a des gens qui, eux autres, se réveillent en sueur la nuit, là, puis ils vont se battre bec et ongle.
C'est le combat de leur vie.
Bien, c'est ça. Fait qu'il y a des degrés, puis j'ai l'impression que le degré d'hostilité des gens qui sont pas souverainistes a baissé. J'entends des gens, là, je prends un taxi l'autre fois, il y a un chauffeur de taxi, en plus d'origine maghrébine, et je le précise parce que c'est pas un électorat très favorable au PQ en général, l'électorat maghrébin. OK, on va dire les vraies affaires. Puis il me dit, moi, je l'aime bien, Paul Saint-Pierre Plamondon. Je suis pas pour la souveraineté, mais je pense que je vais voter pour le PQ à la prochaine élection. Puis s'ils font un référendum, mais je voterai non. Aïe, aïe. Moi, j'ai pas entendu. Tu sais, dans les années 90, t'entendais pas ça.
Ouais, mais c'était très polarisé. Tu votais bleu ou tu votais rouge. Puis c'est comme ça qu'on a fait de la politique pendant des décennies et des décennies. Puis là, on s'est rendu compte que.
Ben, jusqu'à ce que le monde. Jusqu'à ce que le monde descende en train pour dire qu'il nous aime. Là, puis ça a tout.
Ah oui,
ça,
là, on y a cru.
Oui,
on y a cru.
Le fameux Love Fest canadien.
On s'est rendu compte que ce qui nous intéressait le plus, c'est d'avoir une économie forte. C'était d'avoir un meilleur système de santé, un meilleur système d'éducation. On est comme sorti de cette espèce de je vote-tu oui ou je vote-tu non.
Ben, puis en fait, puis moi, je fais partie des gens qui trouvent qu'il y a toujours des bonnes raisons pour le statu quo, c'est-à-dire que si on est, ça va pas bien l'économie, ben on est trop pauvre pour être un pays, puis si ça va bien l'économie, ben voyez bien que ça marche très bien ce pays-là. Fait que, tu sais, c'est plus des raisons émotives, je pense, qui motivent les gens à voter oui, à voter non. Par contre, je le sens qu'il y a moins d'hostilité, que c'est un peu moins polarisant que ça a été à une certaine époque, et que je sens une curiosité chez les nouvelles générations aussi. sais, ils sont pas très intéressés parce que pour toutes sortes de raisons, ils sont citoyens du monde là, puis ils veulent pas ajouter des frontières, ils veulent briser les frontières,
parce que
ça, puis l'environnement c'est important, puis là, tout ça. c'est bien correct, mais avant on sentait un dégoût, c'est-à-dire les jeunes étaient comme arc projet de loser. Mon grand-père a voté oui, il a perdu. Mon père a voté oui, il a perdu. Moi, ça me tente pas d'être un loser.
La mémoire oublie.
C'est ça. Mais là, on sent une ouverture. C'est moins... Il n'y a pas de dégoût. On ne rit plus du projet de souveraineté. Puis ça, on le doit quand même un peu à Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que dans les médias, il y a 3 ans, là, c'était comme le PQ est mort, la souveraineté,
ben oui.
Lol, quel projet ridicule. Moi, je trouve que c'est plus ça qu'on entend présentement.
Moi, ce que je veux savoir, parce que c'est sûr que tu réfléchis à ces choses-là, même si tu ne te réveilles pas la nuit en sueur, mettons que le Québec est indépendant au moment où on se parle. Est-ce qu'on est menacé de taxes de 25 % par Donald Trump?
Laisse-moi réfléchir. Question hautement hypothétique.
Oui.
Avec mes clients, je leur dirais, réponds pas à une question.
Ça dépend de la frontière.
Abats-toi pas là-dedans.
On jase.
Je passerais que oui, malheureusement. On sera pas dans un monde de licorne, dans notre bulle, à part de tous.
Vu qu'on vient de parler de Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, actuellement, on l'a mentionné, il y a le buzz. Puis, tu observes la politique quand même depuis un certain nombre d'années. Tu as été impliqué là-dedans. Ça dure combien de temps, un momentum politique? Après combien de temps il y a un risque d'essoufflement? On l'a déjà vu avec le NPD, on l'a vu avec Québec solidaire, on l'a vu avec l'ADQ à un moment donné.
C'est-tu bon d'être très fort, puis peut-être de piquer à 2 ans d'une élection?
Non, on s'entend que c'est un risque qui est là. On a l'impression que son momentum est trop tôt. Et qu'il va arriver des affaires qui vont faire en sorte que ça va baisser. Je parlais du Parti libéral. C'est sûr, le Parti libéral n'a peut-être pas fini sa traversée du désert. Je regardais. Là,
c'est pas comme si Pablo Rodriguez, tout le monde était comme wouhou, enfin un sauveur. Là.
Ben, c'est ça. Mais est-ce que Pablo va réussir à aller chercher l'électorat francophone? Puis en plus, je l'ai regardé aller dans leur dernier conseil général. Puis là, il disait qu'il faut reculer sa langue française. J'étais comme oh boy, OK, on part de loin. Il porte le bilan aussi du gouvernement Trudeau. Là,
c'est
Pablo
ça.
Pablo Rodriguez. Ce sera pas évident.
Pour
là,
refaire une structure ou une colonne vertébrale économique au Parti libéral du Québec, il part avec un drôle de bilan
non,
au fédéral.
Traverser un pont à pied, ça change rien, là.
Non, mais des fois, il y a des buzz, tu sais, puis les gens peuvent oublier des fois qu'on les aimait pas, finalement, les libéraux, puis là, tout à coup, on les aime. Ça peut arriver. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Fait que moi, je pense que, tu sais, les chances que le PQ soit encore premier aux prochaines élections, je veux dire 50-50, mettons. Puis je pense qu'ils en sont quand même conscients. Par contre, tant que tu as le même
vous
adversaire...
Vous aimez ça, vous autres, les souverainistes, que ça finisse 50-50?
Ouais,
hein?
Non,
ouais,
c'est ça, maudit.
50
c'est
plus
karma.
1, hein, qu'ils disent.
C'est notre karma. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Mais si l'adversaire politique reste le même, regardez Pierre Poilievre, ça fait un an et demi qu'il est premier dans les sondages.
T'as raison.
Justin Trudeau refuse de s'en aller. L'adversaire reste le même. On sait que c'est facile pour Pierre Poilievre de continuer à maintenir son momentum. Donc, c'est pas impossible. On verra, mais moi, je suis pas prête à gager ma maison.
Hey, je voulais...
n'est pas à vendre.
Non, non, OK, non. Pas de photo en avant comme Denis Coderre. Hey, je sais que tu voulais nous parler d'un autre sujet complètement, mais tout aussi important. Là. L'explosion des abandons des étudiants en technique d'éducation.
Ouais.
À la petite enfance, dans un milieu où on entend trop d'histoires d'horreur, dans un milieu où...
ça manque de relève,
ben oui.
On manque de personnel.
On manque de place. Bon, mm-hmm. Donc... il y a quelques années, le gouvernement de la CAQ a voulu un peu accélérer la création de places, puis il y avait toutes sortes de processus bureaucratiques qui n'avaient aucun bon sens, puis qui avaient été mis en place justement parce que les libéraux avaient utilisé les permis de garderie pour faire du financement politique. On se souvient de Tony Tomassi. Donc, il y a plein de mesures qui avaient été mises en place, puis ça faisait en sorte que ça prenait genre 2 ans à créer une place en garderie. Ça n'avait aucun bon sens. Sauf que là, maintenant que ça s'est enlevé, ben on se rend compte qu'on n'a pas d'éducatrice. Puis, tu sais, il y a une pénurie de locaux aussi, il y a toutes sortes de problématiques. Il n'y a pas d'éducatrices. Donc, il y a des incitatifs supplémentaires qui ont été mis en place. Dans la dernière négociation avec les éducatrices, sont allés chercher presque 20 % d'augmentation de salaire. C'est quand même beaucoup.
Oui.
Crime, on n'en a pas plus. Thomas Gerbet de Radio-Canada sortait des chiffres. Au cégep de Sainte-Foy, sur 82 étudiants inscrits à l'automne 2021, seuls 13 ont obtenu leur diplôme à l'hiver 2021.
C'est incroyable comme statistique.
Cégep de l'Outaouais, 6 sur 40.
Fait que c'est pas une école ou un cégep,
non,
c'est généralisé.
Cégep de Valleyfield, 1 sur 25.
Tabarnouche.
Là, on n'est pas sorti du bois. Puis tu sais, une place à l'école, c'est quelque chose qui est garanti. Hein? Il n'y a personne qui va vous dire « Ah, ben désolé, votre enfant n'a pas de place à l'école. » Il me semble que des garderies, ça devrait être la même chose.
Puis là... tu sais, dans une école donnée où il y en avait 25, il n'en sort rien qu'une. C'est-tu elle qui criait après les enfants la semaine passée?
Mais j'imagine que t'as moins de choix.
c'est ça, j'allais dire.
Ça fait partie du problème aussi, là.
Et t'as moins d'élèves qui graduent pour devenir, justement, éducateur, éducatrice en garderie, mais malheureusement, c'est facile aussi de s'ouvrir une garderie avec une petite formation sur le side. Fait qu'à peu près n'importe qui peut en ouvrir. Ce qui est plate, c'est
on
ça, c'est qu'on
a choix plus des... comme parent.
Zéro puis une barre.
Même si tu vas porter ton enfant à la garderie le matin, tu dis, oh,
t'as même plus
pas
le choix
un bel environnement,
familial,
mais t'as t'sais. Pas le choix.
C'est moi, ce qu'il y a disponible.
Mon plus jeune, il est rentré dans une garderie privée en attendant qu'on ait une place en CPE, c'est-à-dire 1 million d'années. Puis on a eu des plaintes. En fait, il y a 2 éducatrices qui ont fait l'objet de plaintes.
Hein?
Et la DPJ... Moi, j'ai été obligée de parler avec la DPJ. J'ai un dossier ouvert à la DPJ où est-ce que, moi, mon enfant, il n'avait rien eu. Là. Visiblement, tout était correct. Mais imaginez-vous comment tu te sens le matin quand tu vas porter ton enfant dans une garderie.
Stressé, hein?
Ben, tu te dis, je vais lâcher ma job, je vais retourner à la maison. Fait que, tu sais, on est dans une société où on dit, ben, que c'est le paradis des femmes, qu'on peut travailler, qu'on peut tout avoir. L'équité, on a des belles garderies qui font la fierté là, de tout le monde. Puis, mon Dieu, qu'on a un beau système de garderie. Crime, on n'est pas capable de donner des places aux gens.
Mais on fait quoi?
Mais là, il y a une autre négociation qui s'en vient avec les éducatrices. Puis, tu sais, quand tu as eu 18 % d'augmentation de salaire à la dernière, on s'entend dessus que ça va être difficile d'aller chercher plus. Mais je pense qu'on a pas le choix. Puis c'est rare que je prenne position aussi clairement dans des négociations syndicales, là. Mais on a un problème de société, ce qui va avoir des conséquences épouvantables sur l'économie, sur l'avancement des femmes.
Je suis d'accord avec ça. Puis à mon sens, les éducateurs et éducatrices en garderie sont la base de la société. Si tes enfants sont pas en garderie, t'es pas né chez vous, tu peux pas faire ton métier.
S'occupe de nos enfants.
C'est carrément ça. Puis bon, le 18 %, je comprends que ça peut sonner comme une grosse augmentation, mais les conditions sont pas hyper favorables quand tu travailles en garderie.
Non. Puis c'est un cercle vicieux en plus, parce qu'avec la pénurie, ils se ramassent avec encore plus de travail.
C'est
l'insécurité,
là.
Il y a des départs énormément. Il y a plein d'éducatrices qui partent justement dans le réseau scolaire parce qu'ils ont des meilleures conditions.
Là, excusez-moi, c'est parce qu'on a un beau témoignage qui vient de rentrer justement, qui illustre peut-être un peu tout ça. C'est Jonathan qui nous texte. Il dit « Ma blonde est éducatrice en CPE, puis le travail que tu as à faire, surtout à 7 heures, ils ont rajouté des papiers puis des choses à faire versus le salaire. Ça n'a juste pas de bon sens. Il faut que ça mène de la job à la maison, puis le soir, tellement ils ont des papiers à remplir, sans parler du budget de sa propre poche qu'elle amène dans les activités, parce qu'ils n'ont pas de budget pour acheter du matériel. Donc, c'est un climat, c'est un contexte qui a changé aussi là, par rapport à ces choses-là.
Là, comme une vocation.
Tu vas avoir l'espèce de paradoxe, parce que là, il y a une entente qui semble avoir été conclue avec le syndicat du côté de la SAQ. C'est sûr que les chiffres vont venir selon ce qu'ils ont réussi à se négocier comme conditions puis comme augmentation de salaire. Puis on va se retrouver encore avec ce comparatif-là sur la place publique.
C'est vrai qu'on le compare souvent.
Voici combien ça nous coûte de payer des gens à une caisse à la SAQ qui pourrait être une caisse automatisée versus voici combien on donne à des éducateurs et des éducatrices qui
s'occupent de nos
prennent
enfants.
Nos enfants en charge pendant que nous autres, on retourne sur le marché du travail puis qu'ils leur donnent les bases d'éducation.
Mais exactement, qui sont super importants pour l'éducation des jeunes puis leur futur à l'école aussi. Là,
il y a une job d'un d'eux qu'on pourra jamais remplacer. Placé par un robot, là, parce comme c'est là.
Zéro pin bar.
Donc, tu sais, je pense qu'il va falloir qu'on ait une réflexion comme société puis d'en faire une priorité. Puis je sais qu'il y en a beaucoup de priorités, mais les enfants de 0 à 5 ans, c'est là que tout se joue en plus, qui font les bases pour quel genre d'adultes aussi ils vont devenir, quel genre d'élèves ils vont être à l'école. Donc, bref, à surveiller, mais ça m'a vraiment déprimé ces chiffres.
C'est le moins qu'on puisse dire. Hey, Antonine, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Juste avant de partir, tu peux aller chercher, il y a un sac de lait au frigidaire.
Merci.
On te la souris, s'il te plaît.
L'affaire est dans le sac. Antonine Iacarini, analyste politique. Il est 16h27. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Gravel. Boulevard.